Investir à la bourse, on le sait, c'est un travail, c'est une discipline, c'est quelque chose et il faut toujours se poser la question si on peut faire mieux ou pas que les indices. Parce que dans le fond, il y a tous les fonds indiciels qui sont là à notre disponibilité et quand on utilise ou quand on prend les services d'un gestionnaire, on va aimer que le gestionnaire ajoute de la valeur, bien évidemment, pour faire mieux que les indices. Et à ce niveau-là, William André avait beaucoup à partager au niveau de ces trois, selon lui, les trois facteurs clés qui sont importants pour un gestionnaire afin de faire un meilleur rendement, de choisir les bonnes compagnies au bon moment. Alors, je me suis entretenu avec lui dans une série de trois podcasts parce qu'il en avait trop à dire, vous allez voir. Avant même qu'on commence à enregistrer, il avait déjà commencé à parler, tellement généreux, tellement volubile, c'est génial. Vous allez voir, on a eu bien, bien du plaisir à faire ça ensemble. Donc, c'est Pierre-Luc Poulin, podcast de l'émergence. Je vous présente William André Nadeau et sur le premier des trois facteurs clés à prendre en considération avant d'investir à la bourse. Ça me fait super plaisir d'être ici aujourd'hui pour ce podcast, une série de trois qu'on va faire ensemble.
Ah oui, bien sûr.
Puis tu me parles de facteurs de rendement, puis on se parlait d'indices boursiers, puis tu me dis que c'est des facteurs qu'on va se parler, c'est pour ajouter de la valeur, tout en partant, on va y aller là, pour ajouter de la valeur par rapport aux fameux indices, aux fonds indiciels ou d'investir de façon passive, c'est ce que je comprends.
Oui, parce qu'un investisseur a toujours le choix d'acheter un FNB indiciel pur, ou des fonds mutuels standards. Mais le rôle de travail d'un investisseur qui veut mieux faire ou un gestionnaire, c'est d'aller chercher le quelques pourcents de plus. Et là, je résume en trois grands facteurs de rendement que j'ai trouvé au cours des 25 dernières années.
Je trouve ça génial. Donc, tu me dis, toi, tu résumes, autrement dit, tu es très focus à ce niveau-là, je pense. Tu me dis, tu as trois éléments qui vont faire que tes choix de compagnie, toi, comme gestionnaire de portefeuille, qui vont faire que tu vas ajouter de la valeur par rapport à simplement à acheter un indice. Le premier facteur que tu me parles, puis ça, je pense qu'on avait déjà parlé dans d'autres podcasts, mais on va l'étayer encore plus, ça s'appelle la vision des gestionnaires ou l'aspect de comment on voit l'avenir ou comment les gestionnaires entrevoient, autrement dit, l'avenir dans lequel... l'industrie dans laquelle ils vont évoluer.
Oui. Ce qui est beau de la bourse, c'est qu'on a le choix entre des milliers de titres. Alors, c'est de faire des filtres. Mais il y a un facteur de rendement que j'ai développé au fil des années qui revient d'une étude qui s'appelle Build to Last. C'est deux chercheurs d'Harvard qui est Collins et Porras, il y a 20 ans. Et qui a été considéré comme le livre du siècle, de management du siècle passé. Okay. Alors, puis il décrivait vraiment en profondeur des entreprises, une trentaine de 30-40 entreprises à laquelle ils ont pris des comparables et ils ont pris des entreprises. Ils appellent les entreprises visionnaires. Okay. Alors, et là, il y a des caractéristiques fondamentales à l'intérieur parce qu'on parle de culture organisationnelle. Et ce qui ressortait de cet ouvrage-là, c'est que sur une étude de 30 ans, ils réalisaient autour de 8-9% de plus que l'indice SP500, ces entreprises-là. Okay. Et là, ils ont étudié en profondeur qu'est-ce qui représente ces entreprises-là. C'est encore vrai avant, c'est vrai aujourd'hui. Et c'est encore vrai aujourd'hui que ce sont ces entreprises-là que j'ai dit extraordinaires. D'ailleurs, je pense que Warren Buffett parle d'entreprise extraordinaire, mais souvent la définition est différente.
Ben, c'est là, parce que.
Elle peut être un peu différente.
Ben, c'est ça l'affaire. Tu parles de filtre. Tu parles d'un gars de filtre. Tu vas sur Google, tu mets un filtre. Les filtres sont toujours numériques. C'est des filtres avec des chiffres. Là, tu me parles de quelque chose, un mot qui est extraordinaire, visionnaire. Comment tu fais pour découvrir ça?
Ils ont des caractéristiques, ces entreprises-là. Okay. D'abord, au niveau financier, ils font plus de profits à long terme que les autres. Ils font plus de ventes. Ils deviennent souvent des leaders de leur niche. Puis, ils ont souvent été créés par des entrepreneurs qui ont parti de leur sous-sol, je caricature un peu, puis qui ont grimpé. Alors, c'est un grand succès d'ailleurs à Silicon Valley et de plusieurs succès d'entreprises canadiennes et mondiales. Alors, ces entreprises où ils ont une capacité d'innovation très développée, mais à la tête de ça, il y a des gens. Et ces gens-là, ce qu'on appelle des leaders transformationnels, transformateurs, qui transforment l'organisation. Ils ont une façon de penser pour générer tout le travail de l'équipe de façon commune vers une vision globale de l'organisation. Alors, parmi les caractéristiques, ils vont d'abord bien définir c'est quoi la vision de l'organisation à travers leur... qui a 4 employés, qui a 4 000 employés, qui a 10 000 employés, les principes se ressemblent. C'est vrai pour les entreprises privées, c'est vrai pour les entreprises publiques à la bourse.
On pourrait parler de cohérence, il y a une forme de grande cohérence.
Oui, il y a ce qu'on appelle la culture.
La culture.
Okay. Ils ont une culture d'organisation okay. qui fait que les gens qui travaillent dans cette organisation sont fiers de travailler. Okay. Et d'ailleurs, il y a des différents sites qui on peut même vérifier. On voit le taux de satisfaction des employés, la confiance au leader, la confiance le travail, vie personnelle et conciliation. Bon, alors il y a bien des éléments qui montrent que d'abord, ils sont fiers de l'organisation.
Ce sera un peu d'entreprise, dans le fond, que tu vas mettre ton CV et tu te croises les doigts pour qu'ils t'engagent. Autrement, c'est le genre d'entreprise où il y a une liste d'attente.
Souvent, oui.
Puis tu dis que j'étais un honneur d'aller travailler là, puis une fois que tu as un job, tu ne veux plus la lâcher parce que tu dis, moi, tu as dit que je suis donc content de travailler pour eux autres.
Oui. Alors, c'est. Ils n'ont pas besoin de chercher. Les gens viennent chez eux. Mm-hmm. Ce sont des aspirateurs mm-hmm. de talent. Mm-hmm. Ils sont exigeants, ces entreprises-là, au niveau des ressources humaines. Mais souvent de la bonne façon. Il n'y a pas de façon parfaite, mais de la bonne façon. Dans le sens que, prendre l'exemple d'un livre d'une dizaine de 7-8 heures de Google. Bon. Alors, il disait qu'en Chine, il y a 2000 présidents. Ils prennent. D'abord, la hiérarchie d'entreprise, elle est cassée. Vous voulez une entreprise style gouvernemental, avec des strates à pu en finir, puis le haut, la raison, le cerveau est en haut, puis après ça, c'est centralisateur. Ouais. C'est le contraire. Ce sont des entreprises qui ont une culture centralisée, mais le fonctionnement est décentralisé.
Je dirais que je ne vais pas faire offense aux banques, mais je pense que je vais le faire indirectement pour avoir travaillé dans le milieu bancaire. C'est pas mal l'opposé de comment ça se passe dans une banque, parce que dans une banque, pour avoir déjà travaillé, tu le sens que ça se passe vraiment, vraiment en haut, puis que ça descend, puis que tu n'as pas... C'est vraiment... Il y a un sens dans lequel ça descend. Si je peux me permettre. Moi, tu connais des banques qui sont autrement, là, mais...
Mais souvent, le cas des grandes organisations classiques... Okay. Alors, qui ont commencé souvent il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, ils sont souvent comme ça. Ouais. Puis ils deviennent assez uniformes. Puis il y a peu de distinction d'une grande banque à l'autre. Par contre, si on regarde des entreprises de la finance innovateurs, qui ont un autre style.
Dans les fintechs, là, d'ailleurs.
Bien, je prends l'exemple de GoEasy, qui fait du financement alternatif, qui a un succès financier, boursier intéressant, qui se transige à des ratios court bénéfices cheap. Puis on regarde le taux de satisfaction des emplois à l'intérieur, ils vont chercher, ils font mieux que les banques, puis plus vite. Donc, ils sont plus vite, plus rapides.
Plus rapides.
Très adaptatifs
oui.
à l'environnement. Puis ils savent chercher l'énergie et la passion des individus à l'intérieur.
Tu sais quelle image qui m'est venue, tu me disais ça, puis ce qui m'est venu comme image, c'est la semaine passée, je me promenais sur la route avec ma conjointe, puis on a vu des oiseaux, peut-être des centaines, presque des milliers d'oiseaux ensemble, puis ils tournaient à gauche, puis tout de suite... Tu t'en vas, tu vois les oiseaux, puis tout en même temps, je ne sais pas comment que ça se passe, mais les oiseaux vont comme voler en gang, puis ils vont tourner à gauche, à droite, monter, descendre, faire des figures de style, mais tout le monde sait comment va aller l'autre, puis il ne se touche pas les ailes, puis je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, on voit ça dans les poissons.
La culture, c'est vraiment vrai.
Mais c'est le même
mais, que prenons l'exemple. Mettons qu'on prend un bateau, on prend comme l'exemple d'une grande banque traditionnelle, un gros navire, tout le monde dans le navire, bon. L'entreprise visionnaire, elle préfère avoir un navire un peu plus petit à la tête, à sa pouvoir de décision en haut, puis il y a plein de petits bateaux autour, puis ils disent, faites ce que vous voulez, on a une île au bout de la ligne. Vous avez une mission, chacun d'entre vous, vous nommez votre chef, vous avez votre chef d'équipe, vous avez chacun une mission, mais on va tout aller vers l'île, puis au bout de la ligne, ils vont aller plus vite que tout le monde.
Mais ils n'ont pas juste un bateau, fait qu'on pourrait dire qu'ils distribuent le risque aussi d'une certaine manière. C'est pas Amazon qui fonctionne comme ça beaucoup?
Les grandes entreprises sont plus faciles de nommer des grands noms. Regarde l'exemple de Google. Amazon, c'est relié à la personnalité du dirigeant. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand le dirigeant est là depuis le début, puis il est toujours extraordinaire. C'est comme si Jobs n'était pas décédé. C'est vraiment, mais c'est un exemple typique. Vous avez vu les films de Steve Jobs. Il y a peut-être une personnalité un peu hystérique, mais quand même.
Mais je suis content que tu me l'amènes, mais je veux dire, là, avec Steve Jobs, Apple, c'était Apple, yes. Mais là, il n'est plus là, puis lui qu'on a présentement, c'est plus comme un administrateur. On n'est plus du tout à la même place qu'on était avec. Comment tu évalues ça? Comment tu regardes une entreprise comme celle-là quand tu évalues? Tu avais un gars qui s'appelle Steve Jobs qui créait exactement un effet Jeff Bezos, mais là, il n'est plus là.
Bon, il y a
comment tu fais, pas pour Amazon en tant que tel, mais comment tu fais pour, après ça, to reassess, comme diraient les Anglo, comment tu fais pour recadrer cette entreprise-là dans ton modèle?
Il y a trois profils de dirigeants, d'ailleurs, qui ont été développés par une étude doctorat de Patricia Pitcher, que laquelle Alex Taillefer, ça a changé sa vie depuis qu'il a étudié la thèse de cet ouvrage-là. Okay. Alors, il y a trois profils de dirigeants. Alors, tu as ce qu'on appelle les gestionnaires d'organisation. Puis tu as les gens qui sont plus créatifs ou plus visionnaires. Puis tu as les gens qui pensent plus à court terme. Alors, c'est basé technocrate dans son ouvrage. Alors, à ce moment-là, c'est que si Steve Jobs était le grand visionnaire et l'autre était l'excellence dans la gestion, Tim Coates, Alors, à ce moment-là, si le gestionnaire prend le pouvoir, ce qui est le cas, il y a tout intérêt à s'attirer des dirigeants autour qui font complètement ce que Chief Jobs n'était pas. Et oui. C'est là que devient le succès.
Okay.
La force d'aller chercher les talents maximum des dirigeants, des employés, de tous les niveaux de la strate de l'organisation.
Okay.
Et ça, c'est magique. Parce que souvent, ça peut être l'employé à la base qui, m'a demandé après 5 ans, revient en haut parce qu'il y a du talent. La force de faire travailler des talents ensemble et de maximiser le potentiel de chacun. Je prends l'exemple de Shopify, qui fait le commerce électronique à Ottawa. Bon, ça, c'est un étudiant d'Ottawa en informatique. Puis, c'est une belle, un beau succès canadien. Ils ont regardé HOP, regarde l'évaluation boursière. Ils ont développé un logiciel, eux autres. Un logiciel qui fait le commerce électronique pour 6 ou 7 millions de petits commerces. Vous avez un petit commerce, vous voulez avoir la transaction électronique, payer 30$ par mois, puis ça se fait. Bon, d'abord, c'est parti du logiciel, mais c'est passé aussi par un besoin. Ils ont cette capacité de connaître le consommateur. Jeff Jobs disait le produit. Il faut voir ce que les autres ne voient pas. Quand Steve Jobs présentait son iPhone à sa table autour, il a passé quasiment un fou dans son équipe. Il dit « Je veux un bouton. Débrouillez-vous, je veux un bouton. » Il est sorti. Mais regarde, ça a tout transformé. Mais il y a des centaines et des milliers d'innovations qui se font annuellement intéressantes dans sa planète de petites, moyennes et grandes organisations. Donc, ces entreprises-là, ils vont vite, ils vont loin. Ceux qui partent de petits, des fois, ils montent vite. Des fois, le stade d'innovation fait en sorte que ça ne correspond pas, le momentum relié au consommateur n'est pas là. Bon, il y a une foule d'éléments, il y a des obstacles, des échecs. Mais souvent, ils deviennent chefs de file de leur organisation. Alors, quand ils deviennent chefs de file, c'est plus difficile à déloger. Alors, c'est pour ça que beaucoup de ces entreprises-là, il y en a qui font du cash flow rapide à court terme, mais il y en a qui disent, moi, je suis dans 15 ans que je vais être le maître de mes produits. Tu parlais d'Amazon, Jeff Bezos, c'est ça. Il a préféré, quand tu parlais d'Amazon, il y a un nombre d'années, puis il y a d'autres gestionnaires professionnels qui me disaient, il y a 5-6 ans, comment tu fais pour acheter du Amazon? J'ai commencé en 2011.
Bien, c'est le même, on n'a pris pas un gageur, mais c'est le même qu'on a repris contact, parce que tu me le disais à l'époque, moi, je venais d'écrire mon livre sur Buffett, puis je le regardais avec mes lunettes unidimensionnelles, on va dire ça comme ça, j'avais pas ce facteur-là. Je trouve ça bien, bien fun aujourd'hui de te recevoir. Puis à chaque fois que je voyais le prix d'Amazon continuer à monter, moi, je te disais, j'arrêtais pas de penser à toi, j'ai dit, ben voyons donc, puis ça continue. Puis t'avais raison, mais c'était sur cette base-là que tu l'évaluais pas sur la
scène. La base des valeurs, parce qu'il y a nos podcasts, ça revient sur les valeurs.
On va le faire.
Là, je l'ai pris. Premier critère, c'est la personnalité de Jeff Bezos et sa vision.
Puis ça, c'est
je regarde sur YouTube, je regardais le dirigeant de Disney il y a semaine passée. OK, il rentre dans les critères quantitatifs actuellement, ce qu'il faut pour acheter le titre dans le Nasdaq Jones. Pas juste, je regardais, j'essaie de lire les lignes, les entrevues qu'il y avait, je regardais son bras droit aussi, puis... OK, pour moi, ça fait partie du style gestionnaire. Très bien géré. Mais c'est pas l'homme de vision à la tête de Disney. Alors, je préfère, de préférence, sans que tous les critères sont réunis. La vision, le côté financier, puis en même temps, le côté engouement des investisseurs.
Momentum.
Bon, puis Buffett, moi, j'avais toujours chef de file, leader, dominant dans son secteur.
C'est
ça, c'est des éléments, quand ils sont là, c'est plus sûr.
OK. Écoute, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école, je te dirais, dans ce que tu dis là, parce que j'ai quand même suivi plus qu'un cours de finance, j'ai lu plus qu'un article de finance, puis c'est pas quelque chose sur lequel je suis tombé très souvent, c'est de mettre autant d'accent là-dessus. On le voit dans les marges de profit, comme à Apple, on connaît très bien le principe qu'ils ont des grosses marges de profit, puis qu'ils font qu'ils ramassent 85% des profits de leur secteur, même s'ils ont 15 ou 20% des ventes.
Oui, à long terme, l'ouvrage de Carlin, c'est pour qu'ils font plus de profit que tout le monde.
Exactement.
T'es pas sur un an, mais sur 8 ans, oui. Alors, parfois, il faut que je me sois convaincu d'acheter quelque chose qui, dans 5 ans, va donner aux 3 ans le profit. C'est bien plus simple de choisir le profit à court terme, mais je fais les deux méthodes de gestion. Mais il reste quand même que, quand je suis convaincu qu'il y a de la vision de l'organisation, ça donne un plus.
Exactement. Puis c'est là qu'arrive, tu te demandes présentement, on a vu baisser Facebook dernièrement, on a vu les compagnies se font shaker un petit peu. La fameuse gang des FANG qu'on appelle, là, l'espèce d'oligopole, on pourrait dire, qui vivent sur le dessus de nos iPhones. Puis c'est devenu presque des nouvelles compagnies qui dominent notre attention parce qu'on est tout le temps sur notre iPhone. La preuve, c'est que présentement, on a chacun le nôtre à un côté de l'autre, puis c'est toujours comme ça. Fait que ça transforme aussi, ça a comme transformé les compagnies.
Ils réinventent le monde, souvent. Puis là, on parle des grands noms connus, les marques, mais il y a des milliers d'entreprises, des semi-conducteurs. C'est extraordinaire, cette industrie-là. Okay. C'est tout ce qui est derrière les iPhones, derrière les appareils intelligents. C'est plus important en facteur total que les compagnies qui fabriquent. Parce que souvent, c'est là qu'on trouve les vraies valeurs, les vraies aubaines.
Ben, c'est là.
Mais ça, c'est l'autre thème de podcast. Mais là-dedans, il y en a beaucoup de leaders qui sont comme les Steve Jobs là-dedans. Ben, ils ne sont pas connus, ils ne sont pas mis en évidence.
Exactement. Ça, j'aime ça que tu m'amènes là parce que les grands noms qu'on vient de nommer, c'est des évidences. Puis, bon, ben, tout le monde peut faire ah, OK, oui. Mais toi, ton travail, en réalité, c'est de trouver ces compagnies-là, dans le fond, un petit peu avant les autres. Étant donné que ces lunettes-là, ce que tu vas regarder, j'imagine, quand tu vas lire, tu vas regarder tout de suite avant la valorisation boursière, avant les chiffres d'affaires, tu vas tout de suite écouter, dans le fond, comment quelqu'un parle.
Oui, je comprends la manière que tu regardes. Comme consommateur aussi.
Quand je t'ai parlé de Square, l'application.
Ben oui, c'est grâce à toi.
Ben non, mais je ne l'ai pas. Mais
j'ai regardé, j'ai entendu profondément la compagnie, j'ai regardé.
Ben, j'étais assez fier de mon coup, mais je te l'ai dit, Wix et Square, ben, on va en parler, c'est public. C'était deux choses que moi j'utilisais, que je n'avais pas investi dedans, je n'avais pas pensé, mais en jasant ensemble. Mais je t'ai dit, moi comme utilisateur, je les trouve absolument géniales. Ça fait des années que je les utilise. Puis moi, comme petit entrepreneur, c'est deux applications sans lesquelles je ne peux pas vivre. Là. Puis, ben non,
mais ils font les choses mieux que les autres.
Ils font vraiment bien.
C'est
ça.
Comme par exemple, tous les fournisseurs de logiciels de cartes de crédit. Bon, t'as Visa, Mastercard, puis PayPal. Ouais. Mon choix depuis de nombreuses années était PayPal. Puis là, tu m'as parlé de
Square.
Puis quand j'ai regardé les différents parallèles entre les deux parallèles, mais ouf. Mais j'aime mieux ça que le Visa Mastercard, parce que ces entreprises-là ont plus de vision. Mm-hmm. Puis ils vont plus vite, puis ils font une meilleure qualité de produit aussi, ils sont plus efficients. Je prends l'exemple Interactive Broker, une firme qui a transigé beaucoup de gestionnaires partout dans le monde, des plus gros courtiers en ligne au monde. Mais ils ont, sur 1600 employés à travers le mondial, ils ont, je pense, comme 1200 ingénieurs.
Wow!
Puis quand j'ai su le salaire qu'ils payaient, c'est très bien payé.
OK.
Mais puis ils réussissent à 1$ la transaction, à faire beaucoup de profit à 1$ la transaction, en 3 et 5 fois moins cher que les grandes banques traditionnelles. Puis en plus, tout est rapide, tout est numérique, pas de papier. Ça a été pensé comme les gens de Google. Donc, c'est pas pensé par le système bancaire traditionnel. Mais regardez le titre d'Interactive Broker à la bourse, IBKR, sur de nombreuses années. Regardez, puis comparez ça aux grandes banques canadiennes. Ben, vous voyez la différence. Alors, si des fois, c'est pas en bas de 15 sous, un titre qui est plus dispendieux, c'est en bas de 17 fois, 18 fois les profits anticipés, selon mes critères. Mettons, le premier
qui est
critère.
Qui est pas cher, oui, oui.
Moins cher. Mais des fois, il faut être prêt à payer 24 fois, 26 fois, mais il faut que peut-être qu'au bout d'un an, ils reviennent au ratio de la valeur. C'est là que les critères qualitatifs
jouent un rôle. Qu'on va parler dans le deuxième puis le troisième podcast. Mais celui-là, puisque ça, il faut quand même faire attention parce qu'on peut trouver que l'histoire ou de toute la compagnie, que l'histoire en tant que telle ou de la manière dont ils exécutent est extraordinairement le fun et bonne et on veut aimer être client de cette compagnie-là. Mais il y a une différence entre être client puis apprécier le service puis acheter l'action et réussir à faire de l'argent dépendamment de la valeur de l'action. Ça, c'est parce que l'objectif du podcast, c'est les facteurs de rendement et non pas les facteurs d'appréciation de clientèle ou comment on peut aimer les compagnies.
J'aimerais te parler de Netflix un petit peu. Parce que tout le monde est sur Netflix. Je pense qu'il y a un Québécois sur deux.
Oui.
Ça, c'est un exemple d'une entreprise extraordinaire.
Oui.
J'ai découvert ça en 2012. J'ai acheté ça. Je pense que c'est comme 20 fois plus cher maintenant. Je le trouve encore cher. T'as des ratios traditionnels est encore cher.
Tu
je
dis, toi. Ah,
donc, je suis obligé de regarder d'autres critères.
Absolument.
Alors, si on regarde Netflix, cette société-là, il a commencé quoi? Par des lacunes du consommateur. Il livrait, il y avait des amendes chez leur Ils avaient des amendes oui. Pour apporter des DVD à leur club vidéo, bon, local. Ils étaient frustrés. Alors, ils ont créé Netflix, mettre quelque chose qui est livré par la poste.
Exact.
Vous vous rappelez de ça? On livrait les DVD. Hey. Ouais. Après ça, ils ont passé par Internet. C'est cheap, c'était pas de qualité. Après ça, la qualité augmentait, puis c'était juste en anglais à un moment donné.
Ouais.
Puis à un moment donné, ils ont augmenté la qualité. Après ça, ils ont, il n'y a pas longtemps, 2 ans et demi, 3 ans, ils ont dit on va produire.
Hey.
Là, ils ont passé des fous.
Ils ont, oui.
Un risque. Regarde, ils ont tu raison.
Complètement
ils
raison.
Ont raison. Amazon, ils ont de la vision.
Oui.
Et après ça, ils envisagent d'autres marchés. Puis ils sont rendus, ils augmentent encore le nombre de membres encore. C'est surprenant. Alors,
ils n'ont pas augmenté le prix, la facture mensuelle.
Ben non, ils augmentent le nombre de clients. C'est le nombre de clients. Souvent, il y a des dérivés derrière tout ça. Puis, il n'y a pas toute la notion valeur. On parlait dans l'Oano Podcast, la valeur qu'on met de marque sans marque. T'sais, c'est des éléments. Mais ça, c'est l'exemple de la capacité de rebond. Ces entreprises-là, comme ils sont vite, une entreprise qui est sclérosée, qui a une hiérarchie, puis ils prennent 8 mois à prendre des décisions, puis l'autre qui se prend des décisions, pas vite comme Trump, mais très vite, là, mais avec intelligence, je devrais dire. Ouais. Alors, ils ont une capacité de rebond sur un obstacle. Quand Netflix est critiqué parce qu'il était trop américain, ça n'a pas pris de temps qu'on engage les producteurs en France, un peu partout en monde, puis ils laissent les producteurs faire leur production. Ouais. Il y a juste le système informatique qui est commun. Alors, ils décentralisent, ils laissent le pouvoir à des gens en bas, mais dans une culture réelle unique.
Écoute, je trouve ça absolument génial. Je ne voyais pas ça de cette façon-là. Puis, je trouve que puis c'est bien que tu commences ça comme étant ton premier critère. On a trois facteurs. On va continuer dans les deux autres podcasts. Mais je trouve, autrement dit, ça devient ton filtre numéro un. Tu n'investis pas, si je comprends
dans bien. Dans la mesure où on connaît.
Dans la mesure
c'est où le problème, il est là.
Ben, c'est ça.
Il y en a un gestionnaire de la Caisse de dépôt, le fois, il dit « Comment tu fais pour connaître ça? » Il y a toutes sortes de façons d'y arriver. Mais on les connaît pour pas toutes les organisations. C'est sûr qu'on paye public. Ouais. Avec YouTube, avec des choses de satisfaction, avec la ligne des produits consommateurs, on peut arriver à cerner que probablement qu'ils se trouvent dans cette catégorie-là.
Ouais. Ouais.
Mais c'est malheureux, c'est que c'est toutes les petites organisations, les petites plus petites compagnies, ils manquent d'informations. Et c'est là que ça prend un budget de recherche pour aller des organisations, pour essayer de décortiquer le côté qualitatif.
Puis quand on est capable d'avoir une entrevue, même si ça serait un média qui serait local, comme tu dis, YouTube aujourd'hui, on a tellement accès à toutes sortes de choses, mais la compagnie, même si elle est petite, mais ça fait un petit peu de marketing web, puis elle se met un petit peu, tu vois le gestionnaire ou tu l'entends s'exprimer, quelque chose du genre, bien ça peut te donner déjà confiance sur la façon dont ils vont gérer les choses.
Il y a toutes sortes de façons de trouver, de simplifier pour arriver aux résultats. C'est dans n'importe quoi, un facteur de rendement, je vais toujours arriver. Comment on peut simplifier quelque chose qui est complexe pour arriver à 80% de l'information qui est nécessaire.
Tu n'es pas obligé d'avoir complètement 100% raison, puis tu n'es pas obligé d'avoir 100% raison sur toutes les actions que tu choisis, rendu que tu cognes une couple de coups de circuit de temps en temps. Tu as un Netflix, par exemple, dans un portefeuille que tu investis dans Netflix avant tes compétiteurs qui sont les
avant tout le monde. Ben, c'est même Amazon me disait, pourquoi tu achètes ça? Mais gestionnaire, il y a 5 ans, il disait, 8 ans, pourquoi tu n'achètes pas Kantar et tout ça?
Exact.
Ben, il y a de la vision. Moi, ils ne font pas de profit. Je sais, si Jeff Bezos ne veut pas faire des profits, il veut faire des profits dans 8 ans. Je disais ça il y a 7-8 ans passé.
Ouais, tu avais raison.
C'était pas. Il faut voir que c'est quoi la vision de l'organisation. Il y en a qui vont faire des profits à court terme, d'autres moyen terme, long terme. Mais quand c'est bien déclaré, c'est ça qu'ils font. Puis nous, on doit prendre des décisions d'investissement à partir de ce qui a été énoncé.
Puis là, ça amène ton deuxième et ton troisième critère. C'est qu'on va terminer le podcast, le premier critère. Je pense qu'on a fait le tour quand même pas mal bien. On va mettre des liens. Tu vas m'envoyer des liens qu'on puisse sur les différents articles de recherche puis les différents éléments pour que les gens puissent pouvoir s'informer plus. Tu as une couple de livres que tu m'as mentionné, des auteurs, de quoi du genre. Build to Last, je pense que ça en serait un bel exemple. On va le mettre le lien pour l'acheter sur Amazon. Tu sais, on va rester conséquent. Mm-hmm. Et puis, bon, on se retrouve dans quelques instants pour le deuxième podcast de cette série où est-ce qu'on va parler à ce moment-là de l'aspect valeur. Donc, on va parler plus dans l'univers de Warren Buffett, dans l'univers valeur. Merci beaucoup, William André.
Merci, ça fait plaisir.
Donc, je peux vous dire comme intervieweur, c'est tellement agréable d'être avec des gens comme William André, passionné, volubile, généreux sur ses concepts. Puis on se parle de 25-30 ans d'expérience. Il est toujours en train de lire ou d'écouter des podcasts ou de se renseigner. Il y a une façon différente de voir les choses. Il le dira pas, mais il y a des bons résultats. C'est la raison pour laquelle il est toujours gestionnaire après toutes ces années. Donc, il y a des raisons pour ça. Et puis, passionné. Donc, on se parle de finances, de chiffres et de compagnie, mais il y a beaucoup de sortes de monde dans le monde de la finance. Il y a des gens plus quantitatifs, des gens plus qualitatifs. William André amène un heureux mélange entre les deux, entre les chiffres, bien évidemment, parce qu'on n'a pas le choix de regarder les chiffres, mais aussi son approche par rapport aux gens qui vont être dans la compagnie, la façon dont ils ont de se comporter. Et c'est le fun, c'est vraiment, vraiment intéressant, puis c'est plaisant quand c'est au Québec en français, bien évidemment, c'est encore plus facile que d'aller interviewer ces gens-là qui sont de New York ou de Londres ou ailleurs dans le monde. Donc, on a du talent au Québec, j'arrête pas de le dire, donc ça a été super.
Restez des nôtres dans les prochains jours, prochaines semaines. On va continuer à mettre le podcast de l'émergence et les entrevues avec William André. Et aussi, il faut que vous sachiez qu'il va de temps à autre faire des podcasts sur le site de conseiller.ca. Donc, il est collaborateur depuis plusieurs années sur le site de conseiller.ca. Si vous voulez voir ses chroniques, vous allez dans conseiller.ca et vous cliquez sur l'onglet balado. Souvent, il est en bas au niveau du menu. Alors, vous allez dans les balados diffusion. Vous allez voir les miens, bien évidemment, mais William André aussi, en fait, de par lui-même. Et ils sont toujours extrêmement intéressants. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. C'était Pierre-Luc Poulin. Donc, comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur les Facebook, Twitter de ce monde et toutes les LinkedIn aussi, surtout. C'est là que je me tiens le plus. Et puis, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous voulez venir faire un tour sur le podcast, vous avez des choses que vous aimeriez qu'on jase, qu'on parle, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Puis d'ici là, ben, je vous souhaite une belle continuité et des très bons rendements. Bye!